Bienvenue pour une nouvelle émission de Fenêtre sur le Monde. Ravi de vous retrouver avec Adrien Dessouin, qui est membre du comité de rédaction de Conflits. Nous allons partir cette semaine au Moyen-Orient pour une émission avec le professeur Gilles Kepel. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflits. Vous travaillez sur le Moyen-Orient, vous êtes un de nos arabisants et orientalisants et vous avez publié plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment celui-ci qui est donc le dernier livre que vous venez de publier, Le prophète et la pandémie, du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère, ouvrage dans lequel il y a un carnet de cartes qui est extrêmement fourni, qui a été réalisé par Fabrice Balanche, avec lequel nous avons réalisé un podcast que vous pouvez retrouver sur le site internet de Conflits. Et puis vous pouvez également retrouver Conflits en kiosque. Le dossier de ce mois-ci est consacré à la géopolitique de la peur. Et vous pouvez donc retrouver Conflits en kiosque et sur notre site internet pour le numéro actuel et pour les numéros précédents que vous pouvez acquérir en format papier et en format numérique. Alors, votre ouvrage est assez original, je dois dire, dans la manière de faire, puisque vous prenez une année entière, qui est l'année 2020, qui s'est écoulée, et autour de cette année, vous faites une analyse à la fois de la pandémie de coronavirus et des conséquences qu'elle a eues sur ce monde oriental, monde arabe oriental, et puis également vous analysez la question de la Turquie, c'est notamment le rôle joué par Erdogan autour de cette année. Donc on a à la fois une chronique de l'année 2020 pour le monde arabo-musulman et aussi une analyse dans le temps long de ce monde musulman et des évolutions qu'il y a eu au cours des 20 dernières années, ce qui est un exercice qui n'est jamais aisé d'associer à la fois l'analyse de l'actualité et une analyse plus profonde du temps long, associer ce double travail. Et je dois dire aussi que j'ai pris un grand plaisir à lire cet ouvrage qui est très bien écrit, très agréable à lire, ce qui ne gâte rien aussi, parce qu'on a parfois des ouvrages très intéressants mais un peu arides. Et là, le style littéraire est aussi très agréable, ce qui pour un ouvrage de géopolitique est également intéressant. Au cours de cette année 2020, donc vous soulignez évidemment l'importance de la pandémie, mais quel est pour vous le rôle réel de cette question du coronavirus dans le monde arabo-musulman, et est-ce que celle-ci va avoir des conséquences dans les nouvelles cartes qui vont apparaître pour ce monde, pour cette région du monde ?
D'abord, merci pour votre invitation et votre aimable présentation du livre. C'est en effet pour moi quelque chose d'assez particulier que ce livre, puisque j'ai décidé de l'écrire à chaud, et en fait, si j'ai pu le faire, c'est qu'il fait suite à celui qui figure en petit en édition de poche juste à côté, Sortir du chaos, qui a été paru en français dans sa première édition en 2018 et qui faisait le bilan d'un demi-siècle d'évolution du Moyen-Orient avec, comme si j'ose dire, moteur de l'histoire, les trois phases du djihadisme, l'Afghanistan et ses séquelles en Algérie, Égypte, etc., puis dans les années 80-90, puis Al-Qaïda, fin des années 90, début du 21e siècle, et ensuite Daesh jusqu'à 2018-2019. Et il m'a semblé que cette espèce de dialectique du djihadisme avait abouti à une situation de chaos, d'où le titre du livre précédent, de délabrement, que soudain, l'arrivée de la pandémie au début de l'année 2020 avait précipité d'une façon tout à fait stupéfiante, accélérant les lignes de faille, en créant d'autres et finalement établissant de nouveaux équilibres précaires, puisque on va voir peut-être tout à l'heure qu'avec l'arrivée de Joe Biden à la présidence, de nouvelles pièces ont été mises dans ce jukebox d'une certaine façon, et il m'a semblé qu'il était important de faire une sorte d'arrêt sur l'image, vous voyez. Autant le Sortir du chaos, c'est un film, si j'ose dire, là c'est une photographie, et qui s'efforce de comprendre Quels sont les acteurs en présence? Comment ils se distribuent les uns les autres? Pourquoi ils ont émergé? J'ai articulé ce livre autour de deux grands blocs dont j'ai emprunté les noms à ceux qui s'affrontaient durant la Première Guerre mondiale, la triplice fréro-chiite d'un côté, donc la triplice c'est le terme italien qui désignait la triple alliance entre l'Empire ottoman, l'Empire austro-hongrois et l'Empire allemand, et de l'autre côté l'entente d'Abraham, et la triple entente c'était bien sûr la France, la Russie et l'Empire britannique jusqu'à ce que les États-Unis viennent s'y joindre précisément. Et entre autres parce que le Moyen-Orient d'aujourd'hui tire sa répartition géographique, sa division en États, en large partie du jeu des traités qui ont suivi la Première Guerre mondiale. Et du reste, l'événement peut-être le plus symptomatique de cette année, qui me semble être la réislamisation de Sainte-Sophie par Erdogan, a lieu le 24 juillet 2020, qui est le 97e anniversaire du traité de Lausanne, le jour où l'Atatürk militaire a bouté hors d'Anatolie, si j'ose dire, les Grecs, les Arméniens, les Français, les Italiens et autres, a construit ce qui va devenir le territoire de la République turque moderne, dont pour l'essentiel, il va s'étendre encore un peu, il s'étendra cette année justement, notamment au détriment de la Syrie. Et cela, il le fait donc en se mettant dans les pas de l'Atatürk militaire du traité de Lausanne, qui donc supprime le traité de Sèvres, trois ans plus tôt, qui avait découpé l'Anatolie en petits morceaux pour le profit des puissances européennes qui avaient gagné la Première Guerre mondiale. Et il s'en sert pour tordre le bras de l'Atatürk laïque qui avait désacralisé la mosquée établie à Sainte-Sophie après la conquête ottomane de 1453, la conquête de Constantinople, pour en faire un musée et un cadeau à l'humanité. Vous voyez ? Et donc, autour d'éléments comme ça, qui sont des éléments symboliques très forts, s'organise par exemple toute une vision de l'expansion à la fois turque et ottomane et islamo-ottomane. Elle va se traduire par exemple par l'envoi d'un navire gazier qui s'appelle opportunément le Oruç Reis, c'est-à-dire le corsaire barberousse, le corsaire ottoman, dans les eaux territoriales grecques et cypriotes, d'un corps expéditionnaire de quelque chose entre les janissaires et les bachibouzouks en Tripolitaine de Libye, idem en Azerbaïdjan, aux côtés du Nagorno-Karabakh et contre l'Arménie. Ça se traduira ensuite aussi par l'offensive médiatique et la campagne contre la France et Emmanuel Macron taxée d'islamophobie à l'occasion du discours du 2 octobre des Mureaux. Et en même temps, dans la synchronie, ça sera l'opportunité pour Erdogan de s'affirmer comme un champion du monde islamique au moment, la fin juillet, c'est-à-dire du grand pèlerinage, du Hajj, où les Saoudiens ont décidé de respecter les règles de la prophylaxie à cause de la Covid-19, puisque si on avait mis 2,5 à 3 millions de personnes à la Mecque en même temps, ça aurait été un super cluster. Mais du coup, les images de la Mecque qui arrivent en 2020 sont des images qui ne donnent pas du tout le sentiment d'une religion forte et conquérante comme c'était le cas chaque année, mais bien plutôt d'une religion où la prophylaxie des hommes passe devant la loi de Dieu d'une certaine manière. Et pendant ce temps-là, à Istanbul, des foules acclament Erdogan, crient « Allahu Akbar ». Le musée est réislamisé. Les Iraniens disent que c'est formidable, ça va être une mosquée jusqu'à l'apocalypse. Et on voit bien comment s'organisent les clivages autour de la revendication de l'islam politique entre différentes forces dans le monde musulman. Et ça fait penser aussi, et ça sera renforcé par l'attaque d'Erdogan contre Macron et la France, à l'ayatollah Khomeini qui, en 1989, le 14 février, fait sa fameuse fatwa de la Saint-Valentin contre Salman Rushdie, qui lui permet d'occulter le lendemain le retrait soviétique de Kaboul et défaite de l'armée rouge, qui sera le prélude à la chute du mur de Berlin quelques mois plus tard. Et de même que Khomeini faisait cela pour se proposer comme le héros et le champion des musulmans humiliés et offensés par le livre de Rushdie, entre guillemets, et donc damer le pion aux Saoudiens comme les champions de l'islam, de même Erdogan, si vous voulez, s'inscrit un peu dans la même logique. Donc, il m'a semblé intéressant à la fois d'observer ces événements de l'année 2020, il y en a d'autres dont on parlera tout à l'heure, l'alliance entre Israël et les pays arabes, etc., mais, et de les situer en perspective, puisque bon, j'ai à peu près 40 ans de métier maintenant, hélas, ça commence à compter. Et donc, un événement comme celui-là, j'ai la capacité, je crois, de le faire consonner ou résonner avec tout ce que j'ai observé et pour la plupart des cas vécu, hein, parce que au moment de la fatwa de Rushdie, j'avais quand même 35 ans, donc j'étais quand même en état de lire et écrire et d'observer. Et il m'a semblé que c'était une opportunité unique et intéressante. Alors, pourquoi cette année 2020, effectivement, et la pandémie qui bouleverse complètement notre représentation du monde? Je n'ai jamais rien vécu, j'ai 65 ans, je n'ai jamais rien vécu de semblable toute mon existence. Toutes ces transformations à l'échelle mondiale, la répression, enfin, la capacité d'aller et venir, l'obligation du couvre-feu, la diffusion mondiale du phénomène, les vaccins au moment où la Chine dispute l'hégémonie mondiale aux États-Unis et finalement la pandémie lui permet de se positionner dans ce troisième affrontement mondial sans avoir à tirer un coup de feu, sans vouloir être complotiste, etc. etc. Donc tout ça, ça a un effet absolument extraordinaire, enfin terrible. C'est une année qui est à nulle autre pareille. Mais au Moyen-Orient, elle a un effet particulièrement important parce qu'elle va accélérer les contraintes qui posent sur le Moyen-Orient à l'échelle mondiale d'une manière inouïe. Pourquoi ? Le Moyen-Orient tire sa spécificité dans la deuxième moitié du XXe siècle et le début du XXIe, de deux dimensions. La première, c'est sa capacité d'être un exportateur d'hydrocarbures. Et ça, c'est sanctuarisé lors d'une autre Saint-Valentin, celle du 14 février 1945, où Roosevelt rencontre Ibn Saud sur le navire américain, le destroyer Quincy, qui est amarré dans les lacs amers du canal de Suez, et ils font des échanges, ces mots qu'on échange le jour de la Saint-Valentin, amour toujours, là c'est mon pétrole contre ta protection, ma protection contre ton pétrole. Le Moyen-Orient, et particulièrement les bords du Golfe Persique, sont très riches en hydrocarbures. Les hydrocarbures vont permettre de détenir la clé de la guerre froide qui se joue, hein. Roosevelt arrive tout juste de Yalta, il a survolé la Palestine avec son avion, et on a montré ça par le hublot, on a dit vraiment, c'est pas too much ado about nothing, mais so much fuss about that, such a small place. Et donc, ce pétrole qui a donné sa force au Moyen-Orient, sa capacité unique de production, c'est ce qui, en 1973, après la guerre d'octobre, dite du Ramadan ou du Kippour, va faire des pétromonarchies une force dominante, non seulement de la région, mais un acteur absolument essentiel dans le système du monde. Et là, l'effondrement du pétrole, causé par la pandémie, du fait à la fois, bien sûr, de l'effondrement de la demande, de l'arrêt de l'économie mondiale, mais aussi de la stratégie russe à laquelle les Saoudiens ont été obligés d'emboîter le pas lors de la réunion de l'OPEP+ du 6 mars, où le représentant de Poutine dit « on va augmenter la production pour faire baisser les prix, sortir les producteurs de shale oil américain du marché pour que le pétrole redevienne une arme entre nos mains hein, », début 2020, ce sont les États-Unis qui sont de nouveau le premier producteur mondial, avec 15 millions de barils jour sur 100 millions à peu près, et les Saoudiens et les Russes entre 11 et 12. Et ils n'anticipent pas que deux, trois semaines plus tard, l'économie s'arrête et le pétrole va s'effondrer en mois d'avril, le 20 avril, si je me souviens bien, jusqu'à moins 36 dollars le baril dans certains cas.
Il fait de s'en débarrasser,
et ça, c'est quelque chose d'absolument hallucinant qui ne s'est jamais produit dans le passé et ça va accélérer la mutation. Et cette accélération de la mutation, c'est-à-dire de passer au post-pétrole, ça se traduit notamment par l'entente d'Abraham, qui est également un moyen de passer au-delà de l'autre dimension, l'insertion particulière du Moyen-Orient dans le jeu mondial, c'est-à-dire le conflit israélo-arabe. C'est le cash des Saoudiens. Je m'arrête là, je vous laisse reprendre votre souffle. La manne extraordinaire des fonds souverains des Émirats Arabes Unis, c'est à peu près 1 000 milliards de dollars sous gestion, alliés à la Startup Nation israélienne, à la high-tech israélienne, tout ça, ça va créer une nouvelle dynamique, enfin en tout cas c'est ce qu'espèrent les acteurs, il y a peut-être toutes sortes d'aléas et d'impondérables que nous ne connaissons pas, qui permet à la fois de dépasser l'économie rentière du pétrole avec ses effets catastrophiques non seulement pour l'avenir de la planète et le réchauffement global, mais aussi pour la destruction de sociétés qui sont mangées par la rente, comme l'Espagne a été détruite après la rente de l'or américain, si vous voulez, de l'or des Amériques, mais également de dépasser la contradiction israélo-arabe qui avait été la dimension principale, l'irritant principal de cette région depuis 1948.
Alors, on reviendra au cours de l'émission sur cet axe fréro-chiite, justement, que vous évoquez, puis les accords d'Abraham. Il y a un élément avant cela sur lequel je voudrais revenir, c'est que vous évoquiez le Moyen-Orient, et puis vous évoquez aussi la question européenne et française, notamment dans le sous-titre de votre ouvrage, donc, qui est du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère. Cette expression, djihadisme d'atmosphère, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez créée ou si vous l'avez reprise de quelqu'un d'autre, mais enfin, en tout cas, c'est un élément essentiel de votre ouvrage, je trouve d'ailleurs assez original, et ça explique aussi que la notion de djihad a un peu évolué. Alors, vous étudiez plusieurs attentats qu'il y a eu au cours de l'année, en expliquant qu'il y a cette sorte d'esprit du djihadisme qui va à certains moments agréger des personnes qui vont passer à l'acte et commettre des attentats, comme on l'a vu à Nice, par exemple.
Oui, alors, sur le terme même, tout concept ou tout syntagme qu'on met en circulation, personne n'a jamais rien inventé. On réutilise du matériau, on le met ensemble. L'expression « les atmosphères du politique », c'est quelque chose qui avait été utilisé par Bruno Latour. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il adore que je lui pique son terme et que je le remets dans un autre concept, un autre contexte. Mais bon, ça fait partie du jeu. J'ai été assez inspiré aussi, d'une certaine manière, par ce qui m'a semblé être une forme de congruence entre cette diffusion de cette nouvelle phase djihadiste et donc qui succède à Daesh, à la phase 3 de la dialectique précédente, et finalement la diffusion du virus. Et le virus a une diffusion atmosphérique aussi. On est mis en connexion avec des individus qui vous transmettent, qui vous contaminent, sans s'en rendre compte. C'est pas comme le sida, si vous voulez. Vous n'avez pas besoin de coucher avec quelqu'un ni de vous faire utiliser une seringue utilisée par un autre drogué. Ça, c'est plutôt quelque chose qui se référerait à un système d'organisation ou de réseau. Là, il n'y a pas de réseau. Puisque, par exemple, quand le professeur Samuel Paty est égorgé dans des circonstances, décapité, ce sont atroces, par le Tchétchène Abdullah Anzorov le 16 octobre 2020, on ne peut pas trouver que Anzorov appartenait à une quelconque organisation. Il n'avait reçu d'ordre de personne. Ce n'est pas comme ce qui s'est passé quand le père Hamel, dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray, a été poignardé par un djihadiste local et un autre qui venait de Haute-Savoie, qui avait été mis en contact à travers le réseau Telegram par un djihadiste algérien vivant en France, Oranais de Roanne, Rachid Kassem, qui utilisait sa chaîne Telegram à partir de Raqqa dans le califat islamique. Voyez, là, on avait un système réticulaire, une sorte de rhizome à la Gilles Deleuze, si vous voulez. Là, maintenant, on passe de Gilles Deleuze à Bruno Latour, si j'ose dire, et à la pandémie. Et donc, il suffit que des individus se mettent sur des réseaux web qui ne sont pas destinés à eux, ou agissent, que mon collègue Bernard Rougier appelle des entrepreneurs de colère, c'est-à-dire des gens qui vont désigner comme le père de l'élève du collège de Bois d'Aulne à la vindicte publique cet enseignant, à partir de faits qui sont faussement relatés par la fille du père en question, puisqu'elle n'avait pas été en classe ce jour-là, ou bien Erdogan, entrepreneur de colère et également qui désigne la vindicte la France. Et donc, vous avez des individus qui ont, si j'ose filer la métaphore, des comorbidités djihadistes, c'est-à-dire qu'ils sont allés se réislamiser sur Internet ou à partir de la fréquentation de groupes ou de mosquées ou de sermons, mais sans être dans une organisation comme telle, hein, dans un réseau, et ils vont être particulièrement sensible, réactif, si j'ose dire, positif au virus qui passe sur le web et qui est mis en œuvre, qui est diffusé par les entrepreneurs de colère. Et donc, voyant la mise en cause du père par le père et par d'autres, par un pro Hamas, par un entrepreneur électoral islamiste de Seine-Saint-Denis, etc., voyant cette mise en cause, eux-mêmes n'appellent pas au meurtre, hein, bien sûr. Anzorov décide de passer à l'acte en utilisant ses méthodes à lui, c'est-à-dire de voyous, en achetant des élèves 300 euros pour vérifier que c'est bien lui la bonne cible, comme quelqu'un qui exécute un contrat, si vous voulez, et aussi en utilisant tout ce qu'on a vu, parce qu'aujourd'hui l'ADN des gens, c'est leur téléphone portable, donc en faisant parler le téléphone portable et en voyant comment il s'est au cours de l'année écoulée, graduellement coupé de plus en plus de la société française. Il est entré dans une logique de séparatisme islamiste, hein, pour parler avec les termes du président Macron, et il décide de passer à l'acte et de venger le prophète et de décapiter. C'est une chose tout à fait étonnante. Comment a-t-il pu décapiter quelqu'un en 2 minutes à peu près?
Oui, techniquement parlant, c'est compliqué à faire.
Il a une pratique, si vous voulez, qui vient de ses rites de passage où on décapite un mouton dans le Caucase pour faire un plat de fête. Une chose qui est contre-intuitive. Il ne suffit pas de regarder des vidéos de Daesh pour savoir décapiter quelqu'un en 2 minutes sans sciller et ensuite d'envoyer une vidéo à un autre Tchétchène qui est à Idlib dans les forces djihadistes qui sont encore là-bas. Donc vous voyez, c'est tout ça, ce djihadisme d'atmosphère, ça s'insère également dans toute la dimension moyen-orientale. Ça vient à la suite d'une transformation du moteur djihadiste de l'histoire moyen-orientale que j'avais essayé de mettre en lumière dans le livre précédent. Là, c'est pas la même chose, c'est-à-dire que pour le livre précédent, j'estime avoir abouti à un achèvement, si vous voulez. C'est un livre que j'ai écrit couché, du reste, parce que j'avais été condamné à mort par l'un des djihadistes, celui justement qui avait tué le policier du commissariat des Mureaux, hein, le discours des Mureaux est dû à cela. Et donc, entre le fait que j'étais sous protection policière, que j'avais des sciatiques épouvantables, c'est une vieille voiture de police sans amortisseur, puis qu'avec un peu de stress, j'avais des sciatiques terribles. Donc, j'étais couché, je ne pouvais rien faire et j'ai écrit ce livre. Donc, je remercie les djihadistes du monde entier qui m'ont donné l'opportunité et le loisir de l'écrire. Et donc là, si vous voulez, j'avais le recul nécessaire pour le faire. Là, c'est un livre qui est sans recul, vous voyez, qui est un livre immédiat, à chaud. Je l'ai écrit entre le mois de juillet et le mois de novembre. Et j'ai ajouté les éléments au fur et à mesure. Quand je l'ai commencé, il n'y avait pas de réislamisation de Sainte-Sophie. Il n'y avait pas de pacte d'Abraham. Puis quand j'ai traité le pacte d'Abraham, après je suis revenu en arrière pour ajouter le Maroc, si vous voulez. Oui.
Vous insistez beaucoup sur la prière d'Erdogan justement à Sainte-Sophie, qui nous a tous marqués à ce moment-là. Mais je trouve que vous lui donnez justement une signification historique que je n'avais pas vue personnellement, et que je pense peu de gens avaient vue, un peu comparable, si j'ose dire, au prêche d'Al-Baghdadi à la mosquée de Mossoul. C'est-à-dire que pour les musulmans, de l'ensemble du Moyen-Orient, cette reconquête de Sainte-Sophie marque une forme de restauration califale, mais cette fois-ci avec Erdogan. Est-ce que je me trompe ou...
Non, c'est ça. C'est extrêmement polysémique parce que justement, l'imam qui fait la prière, Ali Erbach, qui est d'ailleurs un francophone et qui est venu ouvrir la mosquée de Strasbourg à cette fin, la mosquée turque de Strasbourg, la mosquée Eyüp sultane de Strasbourg, a un yatagan ottoman en main, on le voit très bien, et sur les photos. Et pourquoi? Parce que il veut marquer dans cette chose qu'en turc on appelle kilic hakkı, c'est-à-dire le droit du sabre, le droit de l'épée, ce qui a été conquis par la force, par l'épée, par le seif en arabe, ne sera rendu que par la force. Donc nous avons conquis Sainte-Sophie, c'est à nous, ce n'est plus une cathédrale basilique, ce n'est plus un musée, c'est une mosquée. Et d'une certaine manière, ce faisant, il met non seulement ses pas dans la tature militaire, mais à Sainte-Sophie, il met ses pas dans ceux du sultan Mehmed II Fatih, le conquérant qui conquiert Constantinople en 1453. Et ça, c'est très important parce que ça ouvre un imaginaire assez large. Dans la saga ottomane, la chute de Constantinople, c'est le grand moment, la Byzance pourrie tombe sous l'islam triomphant et qui va conquérir la planète. Mais après, vous avez un élément traumatique dans l'histoire de la conquête ottomane, c'est 1683 à Vienne. Et du reste, j'ai pour cela inséré dans le livre, dans le deuxième rabat, un croquis ottoman du siège de Vienne qui figure au musée de la ville de Vienne où je l'avais photographié d'ailleurs, c'est ma photo qui est dans le livre, et qui avait été retrouvée par l'armée austro-hongroise lors du pillage de Belgrade reconquis sur les Ottomans dans les archives secrètes du grand vizir. Et je mets ça en lien avec, alors ça en proposant un lien, hein, mais parce que c'est un... Contrairement au livre précédent, là, c'est quelque chose qui est à chaud et ce sont plutôt des faisceaux d'hypothèses que je propose. Alors après, si je les propose, c'est parce que je considère qu'elles ont une certaine valeur heuristique, mais elles sont livrées à la sagacité des uns et des autres pour les approuver ou les désapprouver. Ça fait partie du débat. Et il me semble que l'attentat de Vienne, justement, qui va advenir après, s'inscrit assez largement, si vous voulez, dans cette logique, si vous regardez les revendications, la façon dont il a été décrit, dont il est advenu, etc.
Quand vous placez la triplice iranienne, turque et Qatar d'un côté, et l'entente à la fois donc, des Émirats, de l'Égypte et d'Israël, je ne me trompe pas, j'espère, vous placez un peu dans le camp. J'allais dire, forcément, le camp c'est du bien, c'est un peu le camp de l'entente contre celle de la triplice, si on se réfère à la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est un peu le truc qui me gêne. Et l'autre, c'est que on voit par exemple en Syrie, on voit que la Turquie et l'Iran, qui sont pourtant dans la triplice, sont plutôt en rivalité. Donc est-ce que c'est bien pertinent, cette division?
Oui, je crois qu'elle est pertinente, en tout cas pour 2020. Je ne vous dis pas qu'elle va durer pour des siècles. Alors non, d'une part, mon propre positionnement, non, je ne me situe pas dans le camp du bien particulièrement. Et du reste, la triple entente à la fin de la Seconde Guerre mondiale, bah, c'est elle qui a créé justement les racines de la catastrophe du Moyen-Orient, d'une certaine manière. Donc, il n'y a pas à s'en réjouir particulièrement. Vous savez, je ne sais pas si on peut prononcer sur l'histoire des jugements moraux. On peut aujourd'hui, bien sûr, là, la mode dans les universités en France est au décolonialisme, au postcolonialisme. On révoque en doute les Lumières, la démocratie européenne, car elles sont bâties sur l'horreur, l'exploitation, le crime colonial, etc. Oui, bien sûr, on peut considérer que le crime colonial est monstrueux, mais on peut aussi considérer que la conquête, la destruction de l'Empire byzantin est monstrueuse, ou que l'arrivée des Arabes en Afrique du Nord est monstrueuse, et l'invasion hilalienne. Alors cela ne vous répond pas du tout. Ça, c'est parce que l'islam a vocation juste à conquérir la planète. Mais vous pouvez dire aussi que la mission civilisatrice de la France, comme on le disait autrefois, c'était de faire sortir de l'enfance, je reprends le vocabulaire colonial exprès, hein, des peuples qui n'étaient pas encore entrés dans la modernité. Donc, chacun peut faire rétrospectivement une vision, peut construire rétrospectivement une lecture morale des événements historiques. Personnellement, ce n'est pas du tout mon objectif. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un camp du bien et du mal. Il y a dans la triple entente, enfin, l'entente abrahamique, il y a des éléments qui, dans leur traduction économique, permettent de transformer profondément le Moyen-Orient si le mariage de ce qui reste aujourd'hui au maximum de leur puissance, des fonds souverains, des pétromonarchies et la high-tech israélienne permettent de passer, par exemple, des énergies fossiles au pétrole vert. Voyez. Et là, ça veut dire qu'on change de logiciel économique et énergétique. Alors, le pétrole vert, ça veut dire des éoliennes partout, ce n'est pas forcément non plus la panacée, ce n'est pas le problème. Mais ce que je veux, moi, faire, c'est essayer d'identifier des moments de basculement dans l'organisation soit de la géopolitique, mais aussi de ses conséquences, par exemple, sur le djihadisme. Je ne dis pas que le modèle actuel de djihadisme est mieux ou moins bien que le précédent. J'observe la transformation de son modus operandi et j'essaie de le lier à des éléments plus importants et jusqu'à l'hypothèse de l'homothétie, si je puis dire, avec le virus, avec la pandémie. Pour ce qui est de votre autre objection, que dans la triplice fréro-chiite, qui est évidemment délibérément contre-intuitive et provocante, puisque au départ, on a le conflit israélo-arabe, d'accord ? Ensuite, si vous regardez la dernière carte de Fabrice Balanche dans Sortir du chaos 2018, c'est l'axe croissant chiite qui est donc dans le rabat final. Regardez, le rabat final.
Alors c'est pas, non, j'ai pas le bon ouvrage. Là, c'est le prophète et la pandémie. Donc c'est l'autre.
Là, elle n'y est plus, justement, parce qu'on a évolué. Il y a donc une zone qui est le croissant chiite, qui est tout en jaune, qui va de Téhéran à Beyrouth Sud, si vous voulez, à Latakiyeh. Et puis, en face, vous avez un bloc sunnite, mais un bloc sunnite qui est déjà fracturé entre l'Arabie saoudite et ses alliés d'un côté et le Qatar, la Turquie de l'autre. Or, ce dont on se rend compte, c'est que, en réalité, le conflit sunnite-chiite qui avait une forte pertinence, même, par exemple, j'avais écrit un autre livre au moment des révolutions arabes qui s'appelait « Passion arabe », qui était un mode différent, ce n'est pas une chronique ni rétrospective, c'était un journal de voyage dans les soi-disant révolutions, les printemps, les soulèvements arabes de 2011, 2012, 2013. Ce qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais allé entre autres au Qatar, le Cheikh Qardaoui, donc la figure la plus emblématique des frères musulmans mondiaux, Cheikh égyptien naturalisé qatari et télécoraniste en chef d'Al Jazeera, m'explique que le soulèvement à Bahreïn n'est pas un soulèvement parce que ce sont des chiites, c'est l'Iran qui les manipule, etc. À l'époque, on est complètement dans un affrontement qataro-iranien. Là, ça n'est plus du tout le cas parce que vous avez en fait les Qatariens, les Qataris et les Turcs sont dans un état d'esprit, une vision du monde qui est celle de l'islam politique des frères musulmans, qui est aussi celle des révolutionnaires iraniens, tout chiites qu'ils soient, parce qu'ils ont lu les frères musulmans. Khamenei a traduit deux textes de Sayed Qutb, le principal idéologue des frères radicaux, si j'ose dire, en persan. Et nonobstant la différence chiite-sunnite, le principal penseur économique des frères musulmans, c'était l'ayatollah Bakir al-Sadr, qui est un Irakien chiite, si vous voulez. Et donc, il m'a semblé là qu'il y avait une alliance entre eux qui dépassait cette opposition. Alors maintenant, vous faites une objection qui est tout à fait bienvenue, mais à laquelle je vais répondre, évidemment, qui est « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» En Syrie, d'un côté, les Iraniens et leurs supplétifs de tout poil, si j'ose dire, se sont portés au secours de Bachar al-Assad, tandis que les Turcs ont soutenu l'opposition islamiste, voire djihadiste, etc. C'est vrai, mais les choses changent fondamentalement en 2016, lorsque il y a le coup d'État mystérieux et pas complètement élucidé jusqu'alors, contre la tentative coup d'État contre Erdogan en juillet 2016, imputé à l'imam Fethullah Gülen, son ancien complice pour s'emparer du pouvoir, réfugié aux États-Unis en Virginie, pas très loin du siège de la CIA, il faut dire, et donc les Russes fournissent pas mal d'informations à Erdogan. Erdogan se rabiboche avec les Russes, va ensuite acheter des S-400 et surtout change de braquet en Syrie. L'objectif n'est plus pour lui de faire tomber Bachar al-Assad et de promouvoir la victoire des frères musulmans dans le monde, en Syrie. Il s'accommode du maintien de Bachar al-Assad parce qu'il deal avec les Russes, c'est ça qui est plus important. En revanche, son problème, c'est les Kurdes. Et donc, il va lâcher Alep. Alep tombe en décembre, si je me souviens bien, 2016. C'en est fini, donc c'est le début de la fin pour l'opposition. Et tout ça est scellé par un pacte tout à fait intéressant, aussi contre-intuitif que ce que j'appelle l'alliance fréro-chiite, si vous voulez, qui est l'axe fréro-chiite, qui est le pacte dit d'Astana de mai 2017, c'est l'ancien nom de la capitale du Kazakhstan, qui s'appelle Nur-Sultan aujourd'hui, et du nom de son patron, Nur-Sultan Nazarbayev, et qui se trouve dans la steppe, justement, la steppe eurasienne, qui est un fantasme aussi bien de la mythologie politique russe que d'une partie de la mythologie politique turque, hein, dans la partie d'extrême droite, partie néo-fasciste du MHP, enfin, ultranationaliste, vous préférez, qui est dans la coalition avec Erdogan aujourd'hui, et par laquelle russes, iraniens, enfin, c'est sous la houlette de Poutine, hein, mais russes, iraniens et turcs s'allient pour organiser la désescalade ou la déconfliction, pour le dire en anglais, en Syrie, qui fait à la fois sortir les combattants islamistes des zones encerclées par les chiites et la force d'Assad pour les amener dans la poche d'Idlib sous le contrôle de la police militaire russe. Pourquoi la police militaire russe? Pourquoi est-ce que les sunnites ont confiance? C'est parce que la police militaire russe, elle est sunnite justement. Ce sont des Tchétchènes, des Daghestanais, etc. Et au début, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on voit bien que ces gars vont être sortis de cet endroit, mis dans cette poche que les Russes et les Syriens vont ensuite essayer de presser. Pourquoi est-ce que les Turcs acceptent ça? Quand ça s'est produit, je n'ai pas compris. Ce qu'on découvre, ce qu'on comprend en rétrospective, c'est que tous ces soldats du djihad à Idlib, aujourd'hui, ce sont les supplétifs de la Turquie. Et ce sont ces gars qui n'ont plus de quoi manger, que les Turcs font solder par le Qatar, probablement c'est les seuls qui peuvent payer, qu'ils envoient comme Bachibouzouk ou comme Janissaire, si vous voulez, plutôt comme Bachibouzouk, en Libye, qu'ils envoient au Karabakh, qu'ils envoient reconquérir, par exemple, vider les Kurdes d'Afrine en Syrie de la population, vider ces territoires de population kurde, et le réarabiser, attaquer la zone entre Kobané et dans la zone autour de Kobané dans le nord, etc. Oui. Donc, en fait, l'alliance, elle a déjà été mise en œuvre, cette alliance que vous dites contre nature et qui effectivement semble contre nature. Elle a déjà été fixée dans le processus d'Astana. Qu'est-ce qu'il a aussi comme caractéristique, le processus d'Astana? C'est d'exclure les Occidentaux, évidemment. C'est-à-dire, c'est de faire en sorte que ce soit sous l'égide russo-irano-turc, mais une Turquie qui, bien que membre de l'OTAN, ne reporte plus aux États-Unis dans cette affaire, mais aux Russes, que s'effectue la déconfliction du conflit syrien. Et ce phénomène, c'est ce qui a permis à la Russie, qui n'était plus qu'une puissance régionale, de redevenir une puissance internationale. C'est à travers la Syrie. Maintenant, c'est une puissance temporaire, parce que le PNB de la Russie, dans les bonnes années, il est comme celui de l'Italie, et dans les mauvaises années, comme celui de l'Espagne. Ça dépend du cours du pétrole. Et donc, la Russie ne peut pas garder la Syrie comme un boulet. Poutine était au KGB quand l'armée russe soviétique est entrée en Afghanistan à Noël, jour de Noël 79, la fleur au fusil. Et il a vu comment, 10 ans plus tard, les gars sont sortis une main devant, une main derrière. Et ça a détruit l'Union soviétique quand même. Donc là, il ne s'agit surtout pas pour Moscou que la Syrie devienne un boulet économique et politique ingouvernable. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est d'ailleurs le conflit qu'ils ont avec Téhéran. Les Iraniens voient la Syrie comme une base de lancement de missiles sur Israël. Or, les Américains ont mis le Caesar Act le 17 juin de cette année, avec les photos de ce photographe donc syrien du renseignement qui a fait défection, avec des milliers de photos de gens massacrés, martyrisés, etc. Donc, interdisant, le Caesar Act interdit tout commerce, tout négoce avec le régime d'Assad. Donc, la Russie est en train d'essayer de construire un régime post-Assad, si vous voulez, mais qui reste proche de la Russie en Syrie. Donc, tout ça s'inscrit dans ces faits. Alors, encore une fois, je ne dis pas que l'axe fréro-chiite va traverser les millénaires. Mais ce livre a pour but d'analyser, de fixer à un moment donné les rapports de force dans la région et de proposer l'imputation d'hypothèses. Dans le jargon des sciences sociales, on dirait que c'est un livre à vocation heuristique, c'est-à-dire qui permet d'élaborer des hypothèses et qui est mis comme tel sur le marché, entre autres, le marché des idées, pour que, justement, vous me fassiez les objections que vous me faites, à moi d'y répondre ou de ne pas arriver à y répondre. Ça fait partie de...
Justement, Joseph Biden, en arrivant au pouvoir à Washington, a déjà, quelque part, remis en cause ce puzzle d'une triplice d'un côté et d'une entente de l'autre, puisque on a déjà vu le Qatar se rapprocher quelque peu de l'Arabie Saoudite, on a vu les États-Unis tendre la main à l'Iran pour renégocier l'accord sur le nucléaire et du coup s'éloigner un petit peu d'Israël et des Saoudiens. Donc est-ce que 2021 ressemblera à 2020? Probablement pas.
Alors, il en est issu de toute façon. Ça, on ne peut pas le changer. Hein. Une année suit une autre. Donc, elle doit gérer, mais elle ne va pas continuer, puisqu'il ne vous a pas échappé, bien sûr, que Biden et Trump n'étaient pas la même personne, n'avaient exactement la même politique. Quoique, sur l'Iran et sur le pacte d'Abraham, Biden n'a pas l'intention de renoncer aux acquis de Trump. Alors, aux acquis, peut-être positifs ou négatifs, comme vous le voulez, hein, du pacte d'Abraham, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas, par exemple, Biden ne va pas remettre l'ambassade américaine à Tel Aviv. Il ne va pas revenir sur le coup exceptionnel en termes de géostratégie qu'a fait le Maroc de se faire reconnaître la marocanité du Sahara occidental, alors que le consensus onusien, c'était plutôt le référendum, profitant de la fin de l'ère Trump pour ne rien avoir à devoir à Trump, et aussi de l'affaiblissement considérable de l'Algérie le régime algérien, considérant que Covid, c'était formidable, ça les avait débarrassés du Hirak, mais ça a aussi contaminé le président Tebboune, bon, qui a peut-être aussi d'autres maladies. Mais, et du coup, les Algériens qui avaient fait toute leur politique anti-marocaine sur le Polisario n'ont même pas pu avoir les éléments de langage pour répliquer, si vous voulez. Donc, tout ça, Biden, il prend une partie, sans le dire, de l'héritage géopolitique de Trump, très clairement. Alors, sur le Qatar, alors je ne crois pas du tout que le fait que le blocus du Qatar ait été arrêté signifie que le Qatar se soit rapproché de l'Arabie saoudite. Non, c'est que l'Arabie saoudite et les Émirats n'ont plus le blanc-seing de Trump, parce qu'il n'y a plus de Trump, comme ça ne vous a pas échappé, pour le blocus. Donc, on arrête le blocus. Le blocus ne faisait pas l'unanimité du tout aux États-Unis. Le département de la défense trouvait que c'était une connerie sans nom, puisque la grande base américaine dans la région, elle est à El Odeid, au Qatar. Il y a 100 avions là, qui, sur un claquement de doigts, peuvent vitrifier l'Iran, si vous voulez. Donc là, c'était uniquement la vision trumpienne. Ça s'est abandonné, mais ça ne veut pas dire que le Qatar renonce à sa politique de soutien absolu à la Turquie, aux frères musulmans. Ça leur coûte moins cher parce qu'ils n'ont pas à payer des centaines de millions de dollars aux Iraniens qui les ont laissés passer avec leurs avions sur leur espace aérien, mais moyennant un droit de péage. Hein. Et donc ça, je crois que ça, sur la logique de l'axe frérochique, ça ne change rien. Ça, conjoncturellement, si vous voulez, ça relâche la pression sur le Qatar, mais le Qatar… Le livre, je crois que le chapitre s'appelle « La résilience », la carte s'appelle « La résilience du Qatar », si vous l'avez sous les yeux. Ça ne change rien. C'est le Qatar qui sort finalement relativement vainqueur de l'affaire sans bouger. Il ne se rapproche pas des Saoudiens, ils sont juste… Il est allé à l'Ola, l'émir Temim, faire la collade à Mohammed Ben Salman, mais il n'en pensait pas moins l'un. Alors, sur l'Iran. Donc, Biden, effectivement… veut se réinsérer dans une politique, disons, qui ne coupe pas avec le JCPOA du 14 juillet 2015, mais le prolonge, en faisant des offres à l'Iran qui sont un peu, vous savez, comme on dit, monsieur Khamenei, je vous propose une affaire, vous ne pouvez pas refuser. Je ne sais pas si vous avez déjà négocié comme ça, mais si vous l'avez fait, en principe, vous savez ce que vous voulez à la fin. Parce que l'autre est en situation de faiblesse. Et la situation de faiblesse, c'est que justement les sanctions ont complètement rétamé l'Iran, la Covid énormément, puisque la théocratie iranienne n'a pas pu mettre des obstacles au pèlerinage au tombeau des saints chiites, etc. Donc, ce qui a fait que les contaminations sont allées en flèche. Bon, le pèlerinage chiite est un élément de cette pratique de superstition aussi très nombreuse, et les gens vont lécher, caresser, embrasser les tombeaux les uns après les autres, sans évidemment utiliser de gel hydroalcoolique, horreur, entre les deux. Donc ça crée des clusters énormes, ce qui a fait des dizaines de milliers de morts en Iran, et des chiffres qui sont bien sûr sous-évalués. Pays très, très abîmé, avec l'Irak qui est aujourd'hui en révolte. Hein, le Kazemi n'est pas le fantoche de l'Iran comme l'étaient ses prédécesseurs. Le pape est allé en Irak récemment, la semaine dernière, et voir Sistani, qui est l'anti-Khamenei dans le monde chiite, le conforter. Au Liban, la mainmise du Hezbollah, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'elle est produit des merveilles, il est extrêmement affaibli et critiqué, ne serait-ce que parce que l'Iran ne peut plus payer à cause des sanctions. Et donc, c'est dans ces circonstances-là que… Mais l'Iran a presque atteint le seuil pour fabriquer le yellow cake, l'uranium nucléaire. Et donc, l'objectif de Biden, c'est justement d'essayer de le contraindre à changer, sinon de régime, du moins de comportement, de régime change, mais plutôt de behavior change, dans un contexte où il y a des élections, l'élection présidentielle en Iran au mois de juin. Donc ça, c'est quelque chose qui est destiné, à mon sens, à hâter les contradictions du régime iranien. Alors, évidemment, Biden n'est pas Trump, mais… C'est pour ça que je vous ai dit, ce livre, c'est une photographie. Et je ne l'écrirai pas dans 20 ans, car je serai mort ou à la retraite, ou les deux, mais dans 20 ans, il ne sera pas écrit de la même manière, parce qu'on relira 2020 en rétrospective. Mais moi, je ne peux pas vous faire 2020 en rétrospective en 2020, si vous voulez. Mais là, à ce stade, je regarde hein, toujours ce qui se passe. Là, je me sers de cette très bonne... ce très bon site en ligne qui s'appelle Almonitor, que je crédite dans le bouquin, grâce auquel vous avez en temps réel à peu près tout ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui est formidable, vous n'avez nulle part dans la presse occidentale, dans la presse arabe bien sûr, il n'y a pas de presse arabe, et donc je n'ai rien vu au jour d'aujourd'hui qui me contraigne à changer quoi que ce soit que j'ai écrit dans le livre jusqu'à là. Donc, j'ai déjà tenu 3 mois, donc c'est déjà ça, si vous voulez. Il me reste plus que 9.
9 mois. Il y a un élément que vous soulignez dans votre ouvrage, qui est la perte de la... Enfin, en France, la perte de la compréhension des événements et le fait qu'il n'y a plus d'arabisants ou d'orientalisants, de gens qui maîtrisent l'arabe et de personnes qui comprennent également les situations. Alors, on a encore quelques professeurs dont vous faites partie, notamment à l'université, mais c'est un élément que vous soulignez. Pardon ?
Pour longtemps, en ce qui me concerne, moi, je vais.
C'est ça. Et donc, là, c'est un problème qui est grave aujourd'hui et qui sera peut-être encore plus grave dans les années qui viennent. C'est la perte de la transmission, le fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui parlent l'arabe, donc qui ne peuvent plus comprendre ces événements, et qui vont analyser le monde arabe et ce que vous avez appelé les banlieues de l'islam, sans comprendre la langue utilisée. Donc, forcément, il va leur échapper pas mal de choses de ces compréhensions.
C'est même encore plus grave parce que l'effondrement de la connaissance de la région, à Sciences Po, il n'y a plus d'études du monde arabe. Le DEA, le master ont été fermés, la chaire a été fermée en décembre 2010, qu'on avait créé avec Rémi Levaux d'abord, puis quelques collègues et moi ensuite. En plein printemps arabe, on n'a pas fait de thèse. Il n'y a pas eu de sujet de thèse à Sciences Po sur les printemps arabes, si vous voulez, parce qu'on n'avait plus les moyens de le faire. Parce que l'argent qu'on avait cherché a été utilisé pour faire autre chose. Et il n'y a plus de master aujourd'hui sur le Moyen-Orient à Sciences Po. Alors moi, je suis maintenant à l'école normale supérieure. On essaye de faire quelque chose de nouveau. Et ça ne se fait pas en 2 ans, hein, un master. Ça demande beaucoup de temps. Enfin, je ne verrai pas le succès de mon... Non, pas de mon vivant, mais enfin, en 3 ans, je... En 2 ans et demi, je ne peux plus être professeur d'université en France. Et donc, surtout, ça a été cet effondrement de la connaissance. L'autre jour, je l'ai déjà mentionné, on m'a demandé de reprendre l'amphi Boutmi à Sciences Po, à titre volontaire, parce qu'il n'y avait plus grand-chose. Donc, je l'ai fait. Bon, effectivement, c'est rempli tout de suite. Il y a 400 personnes qui s'inscrivent, mais qui n'ont plus aucune connaissance. Alors, je leur ai fait un cours sur le livre le plus récent, ce qui suppose de connaître un peu ce qui s'est passé avant. Donc, les étudiants s'y mettent, hein, bien sûr, mais 4e année, c'est-à-dire dans 2 ans, voilà, des gens qui peuvent être dans des cabinets ministériels. Pas directeur de cabinet, bien sûr, mais au moins stagiaire faisant une note. Et au bout de 4 cours, une étudiante me dit: Monsieur, vous avez parlé des frères musulmans, qu'est-ce que c'est que les frères musulmans? 4e année de Sciences Po. C'est pas sa faute. Je lui ai expliqué, mais on pourrait estimer que c'est normal. À Menton, on avait créé un premier cycle monde arabe et musulman en 2005. L'arabe a été supprimé comme langue obligatoire. Les cours sur la région, dont le mien, sont optionnels. S'ils ont macramé en option alternative ou autre. Et j'ai demandé dans le cours que je fais au printemps, 2e année, combien d'entre vous étudiaient l'arabe? Personne. Il y avait un élève qui connaissait un peu l'arabe, qui est franco-libanais. Et là, je suis effaré par l'effondrement par rapport à ce que nous faisions il y a 15 ans ou 20 ans, si vous voulez. Et surtout par la substitution à cet effondrement de la connaissance par l'idéologie. Quand on supprime les études arabes, mais on célèbre le Hijab Day. On supprime les études arabes, mais on a à la place l'idéologie postcoloniale, décoloniale, islamo-gauchiste et tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que on porte un jugement normatif sur cet univers. Alors, celui-là, on n'a pas le droit d'avoir une approche critique, mais on en a d'autres qui sont hyper critiques, tout ce qui est arabe est mauvais, ou musulman est mauvais. Et après, on peut juger comme on veut, mais l'université, elle n'est pas là pour prononcer des jugements de valeur, elle est là pour apporter de la connaissance. Or, ce que j'ai vu, c'est l'effondrement de la connaissance. Alors, il y a bien sûr des collègues qui travaillent, qui écrivent des livres, ça me pose bien sûr, c'est vrai, mais et qui sont certainement très savants. Mais la capacité de transmission, elle se voit. L'aboutissement de cette chose délirante, c'est les deux collègues de Sciences Po Grenoble qui sont dénoncés comme islamophobes, puis c'est relayé, leur nom affiché, placardé comme dans des dadzibao, la révolution chinoise, puis la révolution culturelle chinoise, puis ensuite c'est relayé par le site de l'UNEF, de même que le ciblage de Samuel Paty avait été relayé par la grande mosquée de Pantin, si vous voulez. Oui. Et là, on est vraiment dans un problème qui me semble très préoccupant. Moi, j'ai déjà été condamné, je suis insulté à longueur de journée sur le web islamiste. Je m'en fous, moi je suis visible, j'ai suffisamment, j'ai de quoi me retourner, de quoi me défendre, mais je pense à... j'ai l'âge que j'ai, la notoriété que j'ai, pour le meilleur ou pour le pire. Mais des collègues qui sont moins, qui ont moins de surface, qui sont plus fragiles, si vous voulez, sont directement ont peur et du coup vont choisir le silence et vont être obligés de ne plus enseigner pour éviter d'être menacés, ce qui est complètement délirant. Et alors quand j'ai vu, quand tu as eu la polémique après les propos d'un Vidal, la présidente des conférences des présidents d'université disent ça n'existe pas l'islamo-gauchisme, je renvoie à un éditorial de Laurent Geoffrin dans sa lettre la semaine dernière qui dit ça n'existe pas. Et alors lui, on peut pas dire c'est un homme de droite, Laurent Geoffrin. Et alors qu'est-ce qu'on fait de Grenoble? Donc vous fournissez les verges pour vous faire battre, et, dit-il à l'UNEF en leur demandant de revenir sur ce qu'ils ont fait, mais c'est tard. Donc l'islamo-gauchisme n'existe pas. La preuve, Grenoble, vous voyez. Donc là, on est dans un vrai problème qui a été très mal traité, faute de connaissances, faute de compétences aussi. Et j'avoue que moi, je suis un peu effaré parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une vraie régression par rapport au moment où je commençais à être actif dans le champ comme universitaire au début des années 1980, oui.
D'après vous, quelle est la cause?
40 ans plus tard, je trouve qu'on n'est pas allé, on n'a pas progressé, au contraire.
D'après vous, quelle est la cause de ce fait qu'on ait fermé des chaires du Moyen-Orient, qu'on n'enseigne plus l'arabe? Enfin, on voit les conséquences, mais qu'est-ce qui a fait que ça là, a disparu et que l'université, qui est le lieu pour faire ça, a dit un jour, terminé, on ne fait plus ça, on fait autre chose?
Les modes, les rapports de force, les alliances de divers secteurs de la nomenclature d'État avec des groupes de pression. Enfin, c'est pas ma spécialité, si vous voulez. Ça peut être étudié scientifiquement, je pense. Moi, je me suis concentré sur des objets, disons, un peu moins emmerdants que les querelles universitaires qui sont aujourd'hui devenues un véritable tarte à la crème. Mais c'est plus dangereux et plus riche, plus intéressant de s'intéresser aux ressorts intellectuels et sociologiques du djihadisme, ses modes de diffusion ou à l'affrontement entre le bloc, entre l'axe fréro-chiite et l'entente d'Abraham, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, que de voir pourquoi on a détruit les arabes. Moi, je peux apporter mon expérience. Je l'apporte, je viens de faire. Maintenant, en analyser les ressorts, les tenants et les aboutissants, il y a un certain nombre de pistes, mais je reste quand même, j'essaye de rester universitaire et de n'avancer des propos que les propos que je peux démontrer, si vous voulez. J'ai un certain nombre d'intuitions, mais enfin, je ne vais pas aller au... Le temps que je les ai fondées, je ne vais quand même pas aller au tribunal avec vous peut-être pour ça. Alors que si on était anonyme sur le web, j'aurais pu raconter tout ce que je voulais. Ça, c'est un gros problème aussi qui va avec la législation contre le ce qu'on appelle contre le séparatisme islamiste, c'est-à-dire qui entre autres choses, prohibe la diffusion de discours de haine sur le web, ça me semble extrêmement important. C'est d'ailleurs ce qui se produit aux États-Unis aussi, où la question du contenu des messages et de la responsabilité des pourvoyeurs d'accès est posée aujourd'hui. Les GAFA apparaissaient comme l'acmé de l'esprit libertarien et de l'esprit post-68ard, post-Berkeley, etc. Au fond, tout était gratuit, etc. Mais cette gratuité est une fausse gratuité parce qu'évidemment, elle sert à mettre en lien tous vos contacts via WhatsApp ou autre chose pour permettre de construire des algorithmes qui fait qu'on vous proposera plutôt des cravates de couleur bleue, par exemple, concernant que des cravates de couleur rouge, eu égard à votre correspondance, et aussi que tout ça est favorisé par le fait qu'il n'y a aucun contrôle sur les contenus et qu'on fait monter un peu comme la pornographie, si vous voulez, la cash machine de l'Internet, c'est le porno, hein, qu'on fait monter par l'insulte, etc., l'intérêt à se connecter, et cet intérêt à se connecter, il va permettre aux pourvoyeurs d'accès d'augmenter leurs profits en vendant plus cher les algorithmes qui permettront de cibler le parfum, les cravates, ou je ne sais quoi, pour les internautes. Oui. Donc là, d'une certaine manière, ce djihadisme d'atmosphère de quatrième génération, il est aussi l'enfant de la pandémie et l'enfant des GAFA.
Et d'ailleurs, on voit bien qu'ils maîtrisent très bien ces outils. Enfin, ils savent très bien utiliser les outils du net. Et...
ils maîtrisaient déjà à l'époque de Daesh. Si vous voulez, Daesh avait 5 ans d'avance, le voleur avait 5 ans d'avance sur le gendarme. La première manifestation de Daesh en France, l'esprit Daesh, c'est Mohamed Merah en mars 2012. Et le patron du renseignement de l'époque, M. Squarcini, bon, on était en pleine élection présidentielle par ailleurs, hein, bien sûr, c'était pas complètement indifférent, donc nommé par Sarkozy, dit « circuler, il n'y a rien à voir, ce sont des loups solitaires ». Et il a répété, mais au procès du frère Merah, il y a 2 ans, je me suis insurgé contre ça de manière très virulente, parce que j'avais déjà traduit les textes d'Abou Moussab Soury, publiés, j'ai traduit, enfin, pas tous, c'est 2000 pages, c'est très très emmerdant, mais les principaux passages, j'ai traduit en 2008 et publié dans mon livre « Terreur et martyr ». Et donc, on avait la stratégie, il faut d'abord tuer les apostats, donc les militaires de Montauban considérés comme des apostats de l'islam car ils servaient sous l'uniforme français, même si certains d'entre eux n'étaient pas musulmans, ils étaient antillais, mais ils avaient fait un délit de faciès, si je veux, du point de vue inversé, du point de vue de Merah. Et ensuite les juifs, parce que tuer des juifs, ça fait en sorte que les arabes nationalistes non islamistes vont nous rejoindre parce que nous luttons contre le sionisme. Et donc on n'était pas du tout dans le loup solitaire, c'est une idée con, c'est complètement différente, on était dans la logique des réseaux, et tout ça, Soury l'explique parfaitement, je l'ai traduit. Mais 5 ans plus tard, vous avez le patron du renseignement qui dit foutaise, cadambreden, c'est loup solitaire. On perd combien d'années et combien de morts à cause de cette connerie. Aujourd'hui, on est dans un autre système. Et paradoxalement, si vous voulez, le discours de Macron au Mureaux du 2 octobre, il faut quand même voir qu'il précède de 14 jours l'assassinat d'Anzarov. Si vous voulez, la machine est en phase. Qu'est-ce que ça veut dire, séparatisme islamiste? En fait, c'est la traduction approximative en français du credo du djihadisme aujourd'hui entériné par l'islam politique des frères musulmans, qui est ce qu'on appelle en arabe « el-wala ou al-bara'a ». El-wala, ça veut dire l'allégeance uniquement à ceux qui ont une pensée, un mode de pensée doctrine salafisée, stricte, rigoriste, littéraliste, et de rupture avec l'environnement non musulman. Et el-bara'a, ça veut dire, dans le slang salafiste online de banlieue populaire, ça veut dire se désavouer d'avec. Donc, se désavouer d'avec, rompre, ne rien avoir à faire, ne pas refuser de faire société, c'est-à-dire faire du séparatisme, avec les mauvais musulmans, les apostats, qui sont les premières cibles. Et quand les frères Kouachi sortent de Charlie Hebdo, ils voient un pauvre policier à vélo, Ahmed Mrabet, ils voient qu'il a... est arabe, il se jette sur lui, il le tue. Il le tue pourquoi ? Parce qu'il n'aurait pas tué un policier. C'est un apostat, il faut le tuer tout de suite, si vous voulez. Et ça, c'est dans la doctrine du djihadisme troisième génération, c'est dans les textes de Souris. Mais encore, faut-il les lire. Même si on ne lit pas l'arabe, on peut lire les traductions qu'on a fait le Père Kepel, si vous voulez. Mais le mental, le logiciel du renseignement à cette époque est tellement attardé qu'ils ne le font pas. Aujourd'hui, c'est complètement transformé, ça, c'est beaucoup plus efficient. Et là, on a justement, quand Macron fait ce discours, d'une certaine manière, il exprime ce qu'il y a dans le logiciel du djihadisme d'atmosphère, si vous voulez. Mais c'est inaudible parce que Erdogan, à ce moment-là, lance la campagne contre l'islamophobie de la France. C'est très mal, c'est pas traduit en arabe, alors que ça provient de l'arabe. Et puis, je l'ai écrit dans le livre, ça m'a valu pas mal d'avanies aussi. Moi, je suis pour la liberté d'expression, le droit au blasphème, je suis athée, etc. Mais c'est pas parce qu'on est pour ça qu'on doit trouver que tout ce qui est publié est génial. Et la caricature de Charlie Hebdo incriminé, où on a quelqu'un qui est en train de prier, vu dessiné par derrière avec une étoile dans l'anus, moi, j'y vois rien de blasphématoire. J'y vois surtout un manque de respect de la dignité humaine de quelqu'un qui est en train de prier. Moi, je ne prie pas, mais je ne vois pas pourquoi je montrerai comme ça quelqu'un qui prie. Et d'autre part, je m'interroge sur l'opportunité politique, alors qu'on était en train de créer une sorte de Nuremberg du djihadisme avec les procès de janvier 2015, qui se commence à partir de septembre, de republier la une de Charlie. Résultat, c'est l'occasion pour Erdogan, les Iraniens, les Pakistanais, etc., de lancer avec le cher de Lazare qui essaye de s'en servir pour négocier par rapport à Sisi un peu plus d'espace. C'est l'occasion de faire une énorme campagne anti-française. On a passé notre temps à se défendre contre la campagne d'islamophobie. Et résultat, le procès a été inaudible et globalement raté, si vous voulez. En fait, le Covid n'a rien arrangé, puis les gens tombaient tous malades aussi. Et donc là, qu'ils publient ce qu'ils veulent, les gens de Charlie, mais on a le droit d'en faire le bilan, si vous voulez voir. C'est Charlie Hebdo, il est interdit de les critiquer. Je ne suis plus en odeur de sainteté dans les colonnes de Charlie après avoir écrit ça, mais je pense que c'est un débat qu'il faut pouvoir avoir et que les gens de Charlie sont capables de débattre de ce qu'ils font de manière adulte, si vous voulez. Alors, bien sûr, ils ont subi le martyr, mais malheureusement, il y en a d'autres aussi qui ont subi le martyr.
Bien, merci beaucoup, Jules Kepel, pour ces échanges autour de votre ouvrage, notamment, dont je vous rappelle le titre, « Le prophète et la pandémie du Moyen-Orient au djihadisme d'atmosphère », qui est paru chez Gallimard. Un cahier central de cartes réalisé par Fabrice Balanche. Toutes les références de l'ouvrage sont à retrouver sur le site internet de Conflit. Vous pouvez également retrouver le dernier numéro de Conflit dont le dossier est consacré à la géopolitique de la peur en kiosque et sur notre site internet, site sur lequel vous pouvez également acheter les anciens numéros en format papier et en format numérique. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.
Le documentaire « Chemin de France » présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes. En 4 volets, vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer. Un format d'émission libre et spontané.
Nous allons vous accompagner sur les chemins de France.
C'est à Bonneval que le premier épisode commence. Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans.
Donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs.
Une rencontre avec Franck, un artisan vannier qui nous partage sa passion pour l'art de la vannerie. Avec Emmanuel, un agriculteur et microbrasseur. Une autre rencontre, atypique, avec Yves et Laurent, collectionneurs et amoureux de vieux tracteurs. Une balade en calèche avec Patrice. Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prieuré de Marmoutier, forteresse isolée se dressant au milieu des champs de blé. Une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse terrine bonnevalaise, élaborée par la confrérie des Fêlés. Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val-de-Loire pour accompagner les repas et les grillades. Et pour finir, Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage au lait de chèvre. La série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonsky, le maire de la petite commune de Chapelle-Royale. un petit village de la région centre, aux portes du Perche, peuplé de 600 habitants. Ce maire, contre l'avis général, a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural.
On m'a dit, mais Thomas, c'est pas viable, ça fonctionne depuis 10 ans.
La série Chemin de France propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir, de la terre jusqu'à l'assiette, avec une escapade gourmande avec le chef Benoît Cello. C'est dans le fameux restaurant de Chartres, le Grand Monarque, que Jean-Baptiste rencontre le chef. La mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête. Dans la même journée, le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette. Visitons la ferme, visitons le potager de Diane, du local, de la tradition, du terroir. La série Chemin de France est aussi un quatrième numéro, à la rencontre d'artisans d'art. Trois découvertes, un atelier réputé pour leurs vitraux, une forge, un tailleur de pierre. Vous l'avez compris, ces épisodes sont des voyages, à la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions. J'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires. Si vous souhaitez passer un bon moment ou simplement aider l'Institut des Libertés, tout est disponible en VOD, en DVD, ou ça, sur vodfrance.com. Le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo. Le site est une initiative de l'association Studio Phocéen, qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous et à bientôt.